création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Sous l'étiquette Son inouï, la revue en ligne Saint-Aune a proposé une exploration des enregistrements dans l'espace, sous les eaux, dans les volcans, dans les microcosmes. Ce soir, le son inouï arrive brusquement dans l'univers quotidien. Vous entrez dans un lieu public et c'est un univers sonore insolite qui s'engouffre en vous. Vous soulevez vos draps et vos oreilles sont comme déchirées. Vous ne supportez plus les cris des enfants. Votre guitare devient un objet de torture. Quelques étiquettes possibles. Fatigue auditive, hyperacousie, sensibilité hors du commun. Soudain, le bruit, tout bruit, devient votre ennemi. Le son qui détruit, création on air.
Tout d'un coup, mon monde sonore a changé, quoi. J'ai commencé à entendre des sons que je n'entendais pas avant.
Je me suis levée le matin et je blonde. Le jour au lendemain, vraiment, moi, ça m'a surpris. J'en suis pas revenue. Mais voilà, c'est le quotidien. Tout d'un coup, vous dites, mais c'est mon quotidien. Je vis avec tous les jours. Je me couche, je me lève. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit pour que... Je ne sais pas. Je ne sais pas.
J'arrivais pas à dormir, c'est un cauchemar.
J'aime bien le silence, en fait ça m'a complètement perturbée. Enfin, j'arrivais pas du tout à le vivre, quoi. J'arrivais pas à supporter le soir là, avant de dormir de pas avoir le silence.
C'est comme s'il y avait une machine en permanence, le bruit de machine.
J'avais l'impression que j'avais des hurlements dans les oreilles. J'avais l'impression même d'avoir presque des coups de poignard dans les oreilles. Vraiment, ça me... Et d'avoir la tête prise comme dans un étau. Enfin, j'avais l'impression que la tête allait exploser.
Beaucoup les sons aigus, les sons métalliques, les sons aigus. Au bar, le bruit des verres, des soucoupes, quand ils font la vaisselle et tout ça. Il y a certaines voix aussi, il y a des gens qui ont des voix avec certaines fréquences qui m'agressent, quoi.
Au début, en tout cas ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais très sensible aux sons type vaisselle, cri d'enfant ou cri tout court. Tous les sons percussifs en fait et aigus. Voilà, ces sons-là me faisaient mal en fait.
C'est les élèves en cours avec surtout, alors on va, c'est pas que les élèves, c'est quand ça résonne, parce que alors du coup là ça me prend dans les oreilles et ça, voilà. J'ai eu mes oiseaux, le bruit des pattes du chien, sur le... même du chat, vous savez, les chats ça fait moins de bruit que les. Même ça. Il y avait le bruit de la télé, il y avait le bruit de l'eau qui coulait, les bruits du bus, alors le bruit des motos et des mobilettes.
Comme boulot, je faisais majoritairement de la lumière, donc je bossais dans les théâtres. Les projecteurs, ils ont des crochets pour les accrocher, et en fait, il y a une petite plaque sur ce crochet qui n'arrête pas de taper, ça me rend dingue. Ou alors l'échelle, enfin voilà, les échelles aussi quand on déplie une échelle, et c'est vraiment ce genre de son métallique.
Je suis sensible aux basses fréquences. Tout ce qui vibre, par exemple, là où il y a des VMC, c'est insupportable, quoi. Moi, bon, ça me gênait pas du tout.
Thank you. le son qui détruit. Benoît Bory, Charlotte Rouault et Marie-Laure Ciboulet.
Musicien loisir, hein, pas professionnel du tout, mais j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. Donc j'ai commencé à 14 ans, comme tout le monde, avec sa guitare, des groupes de métal, à jouer, à répéter dans des salles de répète, sans bouchon, avec les amplis à fond, etc.
Je fais guitare et piano.
Donc les concerts qu'elle est avec, etc.
C'est vrai que j'ai une relation spéciale par rapport au son, parce que le son, c'est le monde dans lequel j'étais plongée depuis toujours. Le son, la voix, la parole, c'était des outils de mon travail. Le travail de professeur, de formatrice, c'était toujours en permanence le contact avec les gens, avec le son, avec la voix, l'interprétariat, traduction, voilà.
Moi, ma passion, c'est les oiseaux. Donc, c'était devenu. Je me dis non, c'est pas possible.
La musique, effectivement, ça fait partie de ma vie depuis très longtemps. Enfin, plus là, depuis 2 ans, justement, mais.
Je chantais beaucoup, donc. Franchement, j'ai super mal vécu. Enfin, c'était. J'ai l'impression que c'est le seul truc que j'aimais faire, c'était d'aller voir des concerts et tout ça, je pouvais plus le faire. Enfin, je trouvais ça très très compliqué à gérer, quoi.
C'est très difficile d'accepter que le son devienne pour moi douloureuse.
J'avais un copain lycée qui voulait faire du vélo et puis qui avait un problème au genou, je sais pas, à chaque fois je pensais à lui en fait. Je pensais, c'est le truc qu'il a envie de faire, il peut pas le faire. Je trouvais ça hyper violent, quoi. Je trouvais ça hyper injuste, je me disais mais pourquoi ça, enfin, je pourrais avoir un problème aux yeux, je m'en fous.
Deuil à faire, quoi. À comment accepter de vivre, par exemple, 40 ans, 30 ans, encore avec quelque chose qui vibre, avec un bruit permanent dans l'oreille. Donc c'est un grand travail de deuil à faire, et j'ai l'impression que quelque chose est mort en moi, quoi. C'est-à-dire, c'est comme un peu la mort, quoi. Je m'en sortais pas pendant 4 ans, c'était un cauchemar. Plusieurs déménagements à Lille.
Ici, c'est la campagne, c'est vraiment, pour moi, c'est un changement radical. J'ai toujours vécu en ville, depuis toujours.
C'était des problèmes avec les voisins, parce que je demandais, est-ce que vous pouvez baisser la musique? Je ne savais pas d'où venait ce son.
Tout d'un coup, on me retrouvait à la campagne. C'est vrai que ça change complètement de...
Je regrette beaucoup ma vie lilloise parce que j'avais mes points de repère, j'adorais les grandes librairies, aussi le contact avec les gens, la proximité du commerce, la présence des gens. Mais c'est un choix difficile.
Là, il n'y en a qu'une qui recoule, c'est laquelle c'est la femelle. Moi, ça me casse les oreilles. Alors que non, c'est des bruits que moi j'aime. La chaîne télé, je la mettais volume 2. Je disais à ma mère, ne prends pas ta douche quand je suis là, ne passe pas aspirateur, ne bouge pas. La chaîne n'avait plus le droit de bouger. Les oiseaux n'avaient plus le droit de recouler, à peine respirer. Enfin, à cette période-là, j'étais vraiment très désagréable avec tout le monde. J'ai dû me mettre en arrêt maladie.
je ne pouvais plus aller travailler. J'avais l'impression que je devenais folle, que c'était tout été, il fallait que j'arrive jusqu'au lycée. Ensuite, j'avais mes heures de cours avec les élèves et là, je ressortais, je prenais les calmants parce que je ne pouvais plus.
Le moindre son peut poser problème, donc du coup, on essaie de se protéger des sons à problème. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on peut plus faire ou qu'on évite, notamment les activités sociales, les soirées, les restos, bon, les concerts, on n'en parle même pas, hein, ça, j'ai arrêté direct.
Une fois, je me souviens, je vais rejoindre des amis, répéter dans un local, et en fait, le tout, le mélange, le fait d'ouvrir la porte, d'avoir le son très fort, de me dire que peut-être je vais chanter, de machin, enfin, genre, les angoisses énormes, je suis partie direct, quoi.
Aller au supermarché, par exemple, ça peut être un problème. Donc, moi, ça va à peu près. J'arrive à le gérer maintenant, mais il y a eu des moments où, au supermarché, les enfants qui crient, ça me perçait l'oreille à chaque fois. Du coup, on se dit, j'ai plus trop envie d'aller au supermarché en fait. Dans la rue, dans la rue, je me déplace jamais sans un casque maintenant. Un casque pour écouter de la musique, mais du coup, ça me protège aussi des sons, des sirènes, tous les sons agressifs qu'il peut y avoir en ville. Donc oui, le premier impact, c'est ça, quoi. C'est le côté, on s'enferme un peu. Enfin, donc c'est un impact évidemment sur les relations au boulot notamment. Voilà, on peut plus aller. Déjeuner le midi avec ses collègues, parce qu'il y a trop de bruit. Hein. Les restos à Paris, le midi, c'est une horreur. Il y a un brouhaha qui est monstrueux. Enfin, en tout cas, qui est trop fort pour les gens qui ont ce souci-là. Donc du coup, voilà, ça veut dire plus de restos le midi, ça veut dire les pots de départ, les trucs comme ça, c'est pareil, c'est plus possible. Donc du coup, effectivement, il y a quand même un côté un peu asocial là, qui s'installe. Mais on n'a pas le choix. Parce que c'est des situations qu'on peut plus vivre, quoi, parce que ça fait mal.
Mais oui, parce qu'on ne veut plus rien faire. On ne veut plus rien faire, on veut être, on va dire, dans une bulle, fermée, sans aucun bruit, avec, on va dire, le silence, mais vraiment le silence total, c'est-à-dire même pas une goutte qui tombe. Donc on ne veut plus faire aucun effort. Même, je me souviens, ma mère me disait, tu descends le chien, ah non, 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 parce qu'il va y avoir le bruit des mobilettes, etc. Tu vas chercher le pain, ah non, non, le pain, ben, on ne mange pas de pain. Elle m'a dit, tu ne veux pas descendre faire les courses? Non, c'est pas grave, ça ne mangera pas, ça fera le régime. Donc voilà, non, on en vient vraiment effectivement à un phénomène de désocialisation.
Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si certains d'entre vous souffrent d'hyperacousie, une hypersensibilité auditive.
Et si c'est le cas, comment ils le gèrent?
Je suis désespérée de ne plus vivre dans le calme et je ne veux plus que les bruits me menacent. Connaissez-vous des cas similaires?
Merci d'avance pour vos témoignages. Ils me seront d'une grande utilité.
Bonjour. À la suite de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, moi aussi, je souffre d'acouphènes et d'hyperacousie. As-tu ressenti une douleur dans cette oreille quelques jours avant que l'hyperacousie s'installe?
Bonne journée à tous.
Oui, j'ai un problème moi aussi avec le trop de bruit et je ne le gère pas. Je ne
peux plus sortir de chez moi, ni avoir une quelconque, car je ne supporte plus aucun bruit.
Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout cela?
Descendre l'escalier en bois et entendre mes pas est un supplice.
Je ne supporte plus le bruit du sang.
Je ne supporte plus le bruit des couverts et des assiettes lorsque je suis à table.
Je ne supporte plus le son de cette oreille, ni celle de mon service et de ma mère. J'ai perdu beaucoup, car cette maladie m'a rendu agressive.
J'ai l'impression de devenir folle. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout cela?
Vraiment, j'ai cru que je devenais folle.
Très bien, monsieur. Ça va? Changement de côté. On souffle et on fait la même chose à gauche.
Je savais toujours que j'avais un problème par rapport au bruit, mais à ce point-là, je me suis dit que je deviens complètement folle. Bon, je me suis dit, de toute façon, je vais aller consulter chez Falguière, puisqu'ils sont spécialistes des oreilles. Ça va, monsieur? Et c'est là qu'effectivement, il m'a confirmé l'hyperacousie.
D'accord, je mets un poil plus aigu. Moins aigu que ça. Donc, je descends, ok.
Enfin, c'est pas que j'ai été contente qu'on me dise que j'avais l'hyperacousie, j'étais contente qu'il y ait une solution. Parce que j'étais très inquiète, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire?
Je savais tellement pas ce que c'était, puis Ouais, j'ai l'impression de devenir un peu folle et tout, enfin...
Je vais tenter un son un point plus aigu encore, on essaie.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, ça s'appelait l'hyperacousie. Le problème de l'hyperacousie, c'est en fait, le fait que le cerveau surinterprète des sons forts. Quand on sait pas, on se demande vraiment ce qu'il y a et tout. Et puis en plus, quand on cherche sur Internet, c'est vite l'horreur. Il y a des trucs hyper alarmistes, des gens qui disent qu'ils peuvent plus vivre, et que le bruit de leur frigo, ils le supportent plus.
Ça pourrait coller. Alors j'essaye encore plus aigu.
On a l'impression que ça va forcément crescendo, que ça va arriver à ça. Je me dis mais c'est horrible quoi.
Et je vous le mets à gauche.
Moi ça allait, hein. J'étais pas non plus complètement.
Pour ce patient.
Enfin j'étais inquiet, mais voilà quoi. J'étais encore confiant sur le fait que ça pouvait évoluer dans le bon sens, quoi, que ça allait pas durer. Je me disais ça peut pas durer, de toute façon c'est pas possible. Et donc du coup j'ai commencé à aller voir donc un ORL au début. Alors d'abord un docteur généraliste qui m'a dit d'aller voir un ORL. J'en ai vu donc un premier qui était un petit peu dépassé, qui savait pas trop, qui me disait que ça allait passer tout seul, que qu'il fallait pas s'inquiéter, etc. Et donc du coup, j'ai attendu un peu et j'ai vu que ça passait pas. Donc j'ai consulté un autre ORL qui était soi-disant spécialiste dans les acouphènes, etc. Ça s'est pas super bien passé. Elle était vraiment très agressive en fait. Étonnant pour un docteur, surtout spécialiste dans ce domaine-là. Donc elle sait que les gens sont un peu en bad hein, quand ils vont les voir. En gros, ça va passer, vous inquiétez pas. Et puis j'essaie de comprendre, je lui pose des questions. Il dit non, mais oh, je vous ai dit que ça va passer. Vraiment. Bref, du coup, elle m'a fait pas mal d'examens, audiométrie, etc. Audiogramme, enfin différentes choses. Mais elle m'a pas donné de solution. Elle m'a donné des antidépresseurs. Alors voilà, je me sentais pas du tout déprimé, vraiment. Donc je me suis dit, mais pourquoi ? Donc je lui ai demandé, pourquoi ? Et elle m'a dit, ah non, mais ça va vous aider. Je fais, mais j'ai pas de soucis par rapport à ça. Donc c'est pour profiter d'un effet secondaire du médicament sur les oreilles que vous me donnez ça ? Non, mais écoutez-moi, prenez-le. Bon. Donc du coup, je les ai pas pris. Donc c'était vraiment un échec total, ce truc-là.
Vous prenez ma main, Lysandre. Comment puis-je vous aider ? Il faudrait à vous entendre.
J'ai essayé la sophrologie, je crois. Ah ça a été un échec total, j'ai détesté. Comment j'avais expliqué mon point de vue, tout le monde m'avait dit mais de toute façon c'est foutu, tu feras plus jamais de musique. Enfin genre j'avais trouvé ça horrible quoi, hyper violent et j'ai dit mais enfin non, enfin enfin genre j'avais pas envie d'entendre ça et puis en plus du coup ce truc d'essayer de se relaxer et tout ça en fait ça m'a tendu. Bon ça j'ai détesté.
Ouais, c'est pas hyper concluant.
Ça fait 45 euros et votre cas ne peut qu'empirer.
Je ne pouvais plus encaisser le son acoustique de ma guitare électrique.
Je suis ressorti.
L'exposition à des ambiances sonores normales dans le commun des mortels me causait nausées et vertiges. Le premier ORL consulté m'avait passé un autographe qui montrait un disque sur le roi
des antidépresseurs.
Il m'a dit, ça fait 45 euros et votre cas ne peut qu'empirer. Je suis ressorti de son cabinet avec l'envie de me jeter sous un camion.
Il fait hélas partie de ceux qui disent connaître l'hyperacousie, mais qui nous renvoient en pleine figure que la seule façon de s'en sortir est de voir un psy.
Je vais très très mal, je suis désolée pour ce que ça rend désespérant, même si je suis habituée à avoir mal au moindre bruit. Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution à ce problème ? Je me sens désespérée parce que, selon mon médecin, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais.
voulais vous demander si quelqu'un du forum connaissait un hôpital spécialisé dans ce type de problème. Selon votre expérience, est-il possible de supporter une paralysie sans avoir recours à des antidépresseurs ? Les deux ORL consultés semblent me prendre pour une extraterrestre et n'ont pas de réponse.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus la gorge sèche, à part vivement du papier mouton. Mais je trouve ça angoissant.
Je suis seul.
C'est se couper du cauchemar et de la vie des autres. Merci pour vos avis.
J'ai commencé à regarder sur internet, renseigné par moi-même. Et là, donc, je suis tombé sur tous les forums qui existent autour du sujet, hein, avec beaucoup de choses. Ça part dans tous les sens. Des gens qui sont souvent quand même plutôt négatifs sur le sujet. Il y a aussi des témoignages qui sont un peu extrêmes dans la forme. Donc, parce que les gens sont un peu au bout du rouleau souvent, donc c'est toujours très noir. Avec donc beaucoup de questions qui se posent, des heures à passer dessus, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et puis surtout, en fil rouge, le sentiment qu'il n'y a rien à faire en fait. Que voilà, c'est comme ça, il faut apprendre à vivre avec. Et qu'il n'y a aucun traitement possible pour solutionner le problème. Donc là, forcément, c'est un peu déprimant.
Quand même, je suis passée, je pense, un an avant de trouver les bons interlocuteurs à chercher, à qui m'adresser et tout. Et c'est un an qui est super dur quand même, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Enfin, donc je pense de ce côté-là, si de juste de savoir que ça existe en fait, que ça porte un nom et puis qu'on peut s'en occuper et puis que, enfin, déjà ça serait bien, mais.
Pendant un an, j'ai rien fait, j'ai rien tenté. C'était une erreur, je pense. Du coup, au bout d'un moment, je sais plus comment c'est venu, mais je me suis remis un peu dans la recherche de ce truc-là. Oui, parce que c'est un peu empiré quand même au fur et à mesure, c'était vraiment de plus en plus lourd. Donc je me suis remis encore à chercher. Et là, j'ai trouvé un truc, une clinique à Marseille, enfin un centre généraliste à Marseille avec plusieurs spécialités. Donc des ORL, des dentistes, enfin il y avait un petit peu de tout, ostéo je crois, enfin bref. Et du coup c'est une prise en charge générale où pour le coup là c'est des gens qui s'y connaissent vraiment, qui connaissent ce souci, qui ont de l'expérience, qui ont vu plein de cas, etc. Et donc qui écoutent déjà et qui répondent aux questions, ce qui n'est pas rien. Et donc là j'ai refait encore plein d'analyses, plein de bilans, etc., de tests dans tous les sens. Sur 2 jours ça durait. Et j'ai eu un bilan qui a été fait avec différentes possibilités d'action. Et une d'elles, c'était de faire la TRT, le traitement par bruiteur. Du coup, j'avais déjà vu ce truc-là sur Internet, mais tout le monde disait que c'était de l'arnaque, que ça coûtait une blinde et que ça servait à rien, et puis que des fois, ça empirait les acouphènes, etc. Donc du coup, ce truc-là, je l'avais mis de côté déjà dans ma tête. Mais là, voilà, on me le reproposait de manière concrète et je me suis dit, bon, faut que je le tente, quoi. De toute façon, faut que je tente un truc, quoi.
Alors, en fait, je suis allée chez un spécialiste, donc près d'Opéra. Et donc, c'est là qu'il m'a parlé des différents appareils qui sont des générateurs de bruit blanc qui permettent en fait de créer une réadaptation au niveau... alors, je ne pourrais pas vous dire, hein, eux, ils vous diront ça très bien, entre il y a quelque chose dans notre oreille et le cerveau pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas dans un seuil d'intolérance du bruit. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça, mon oreille, elle pense qu'on est dans un seuil... Je ne sais pas, elle doit penser qu'on est en discothèque, en fait. Et en fait, on n'est pas en discothèque, donc elle pense qu'elle est arrivée à son seuil de tolérance, qu'elle ne peut pas plus. Et donc, c'est là qu'on m'a installé ces appareils. Donc, ils commencent au départ très doucement, avec vraiment très très bas. Et puis après, petit à petit, tous les 15 jours, je réaugmente. Mais c'est vrai, je vous avouerai que je suis très contente quand je les enlève le soir. Le premier jour où je l'ai eu, j'ai dû mettre de la musique pour pouvoir le supporter. C'est-à-dire moi qui supportais pas la musique avec mon hyperacousie, il a fallu que je mette pendant une heure de la musique parce que j'ai cru que là je devenais complètement folle avec ça dans les oreilles. Et j'ai cru que j'allais laisser tomber au départ. Et je me suis accrochée parce qu'on m'avait dit oui, mais ça marche pas sur tout le monde, il y a des gens qui supportent pas. Je me suis dit, j'ai vu un spécialiste, ce sont des gens qui travaillent dessus. Si on commence à dire ça va pas marcher, de toute façon. Et je m'aperçois que ça marche. Donc je suis quand même contente.
En parallèle en fait, de ce truc-là, j'ai fait de la kiné orofaciale, un kiné qui est spécialisé vraiment dans tout ce qui est visage, quoi, donc tout ce qui est lié à l'articulation, la mâchoire, etc. C'est quelqu'un qui est spécialisé aussi sur les problèmes d'acouphènes, hyperacousie. Et en fait, elle a fait pas mal de manipulations, elle m'a détendu des muscles au fond de la gorge qui apparemment étaient trop tendus, etc. Alors, j'ai fait ça en même temps que le truc des bruiteurs. Donc du coup, je sais pas lequel a vraiment fonctionné. Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est un peu des deux? Je sais pas. Mais là, depuis effectivement 2 mois, j'ai une petite amélioration.
Ce qui m'a le plus aidé, c'est que j'ai vu une psychologue pendant 3 ans, je pense. Elle avait elle-même eu des acouphènes. Et elle m'avait dit... de considérer mes acouphènes un peu comme des bruits qui émaneraient de moi, enfin un peu comme si j'étais un oiseau et c'est mes petits bruits, enfin voilà, tout le monde fait des pépiments, des machins, des bidules, et du coup d'arrêter de les voir comme des choses étrangères, quoi. Et ça, enfin bon, ça a été long, hein, mais ça m'a vachement aidé.
Je me suis déplacée dans un très très grand centre de consultation qui est très réputé. La plupart des hyperacusiques y vont aussi. C'est un pèlerinage parce que la plupart des gens sont perdus et quand ils sont en souffrance, en détresse, ils vont un peu partout. Donc la compassion, le fait que j'étais écoutée, vraiment réellement, ça m'a beaucoup aidée. Il faut exprimer parce que c'est un... Moi, je vis ça comme une forme de traumatisme. C'est pas seulement un traumatisme sonore, mais c'est un traumatisme presque psychique. Traumatisme parce que les gens ne nous comprennent pas, quoi. On vit dans une situation de douleur chronique permanente et d'incompréhension, quoi. On est doublement pénalisé par le fait que les gens, parfois les professionnels, pas tous, mais certains professionnels ne nous comprennent pas, quoi. Et donc, il faut l'exprimer. Il faut pas être dans son coin tout seul.
Thank you.
Au départ, oui, non, ma mère, elle comprenait pas au départ. Mais ça n'a pas duré longtemps, elle comprenait pas. Après, j'ai été très vite diagnostiquée, etc. Et elle s'est aperçue qu'effectivement... Mais après, comprendre, je pense que tant qu'on n'est pas dedans, est-ce que réellement on peut comprendre? Je ne suis pas sûre. Parce que même pour moi qui suis dedans, c'est vrai que quand on raconte cela de façon extérieure, ça paraît un peu bizarre. On se dit comment c'est possible d'avoir des bruits qui puissent gêner à ce point-là.
Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que les gens ne comprennent pas, hein, clairement. C'est... Même les gens proches, la famille, les amis, etc., c'est... ils ne comprennent pas. Tu le dis une fois, et puis une heure après, ça recrie dans ton oreille, ou il y a une autre situation où on te redit « Ah, mais tu viens ?»« Mais non, je ne peux pas venir, je t'ai déjà expliqué pourquoi je ne pouvais pas venir. » Mais non, ça rentre, ça sort. Parce que, voilà, c'est... les gens ne se rendent pas compte que c'est un handicap, quoi. Parce que, voilà, ce n'est pas un truc visible. Puis on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas ce que c'est, ce que ça implique...
Bah moi je disais que j'avais mal aux oreilles, ça m'a toujours fait mal quoi, physiquement, donc ça je disais. Après, je l'ai tellement dit à mes amis que maintenant tout le monde débriefait et tout, mais c'est plus quand j'arrivais dans des lieux où je connais pas forcément les gens et tout, là les gens au mieux ils s'en fichent et au pire ils trouvent ça ridicule. On passe pour une chochotte ou je sais pas quoi, mais un truc... Ce qui est hyper bizarre, parce que par exemple, pour les yeux, s'il y a une lumière trop trop forte, les gens vont se plaindre que ça leur brûle les yeux, que ça leur fait mal et tout ça. Mais les oreilles, il y a un truc... Mais parce qu'en fait, ça se voit pas, ça se sent pas, c'est ça qui est compliqué, quoi. Non, il y a un truc, je pense, aussi un peu honteux. La fille qui s'écoute trop, quoi. Ça serait fort, ça me gêne, machin et tout ça. Les gens, ils ont envie de dire, attends, t'es mignonne, tu fais de la musique ou tu fais pas de la musique? Mais il y a un peu ce truc de genre, c'est fort, c'est cool, quoi. Enfin, un truc un peu viril à deux balles, enfin, de performance, quoi. Toi, t'arrives avec ton truc tout mignon, pas fort, machin, enfin, donc t'as pas envie que les gens, ils me disent... qu'ils se foutent de ta gueule. Non, mais bon, après, maintenant, je m'en fous et tout, mais il y a 5-6 ans, j'aurais pas été comme ça. Je me serais démontée à la moindre remarque, au moindre truc. J'aurais pas été en mesure de l'assumer, quoi.
Non, le souci qu'il y a là-dessus, je pense, c'est que c'est pas assez connu des gens. Donc les gens, ils disent, mais c'est quoi ce truc? Ça n'existe pas, quoi. Les psychotes, ou ça va passer, ah, c'est bon, dans 2 mois, ça sera résolu, son truc. Toi, quand tu dis, tu sais, c'est compliqué pour moi au quotidien et tout, il y a des trucs que je peux plus faire et tout, machin. T'essaies des fois d'en parler sérieusement avec le genre, même si c'est hyper rare quand même. Mais les gens, ils se rendent pas forcément compte, et puis ils se disent, dans 2 mois, de toute façon, ça sera fini. C'est bien dans un sens, parce que au moins, voilà, t'es moins mis de côté. Par contre, des fois, t'as envie que les gens n'oublient pas que t'as ce problème-là, parce que y a des situations qui sont très difficiles à gérer, donc du coup, t'aimerais bien que des fois, les gens y pensent, quoi, fassent attention.
Je sais que j'ai une ou deux amies comme ça, quand elles parlent un peu fort, il y a une fréquence qui est... donc du coup, après, je le dis des fois, mais il faut bien le tourner, quoi. Je dis que j'ai un souci aux oreilles, que les sons forts me font mal. Ouais, généralement, je dis ça, en fait. Bon, et puis, ça passe, quoi. Et puis, ça passe pas, bah, j'arrête la conversation. Non, mais ça m'est trop pénible. Après, j'arrête, quoi.
Du coup, derrière, tu te retrouves à toujours dire non, ou à avoir des réactions, des fois, que les gens comprennent pas. Parce que, voilà, il y a un truc qui te fait mal. Le mec, il a rigolé. Il s'amuse, il est content, il rigole. Il te rigole juste à côté de toi. Toi, tu l'as pris dans l'oreille, t'as eu mal. Donc du coup, tu réagis comme ça et il comprend pas. Donc c'est des trucs comme ça qui sont difficiles à... Puis tu peux pas expliquer à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui se passe, parce que tu t'en sors plus, quoi.
Le bruit, ça fait aussi partie de la vie. Enfin, dans un bar, on va pas demander à tout le monde de se taire. Enfin, alors je vais pas dans le bar, mais du coup, voilà, ou à une soirée, par exemple, si tout le monde a envie de faire la fête et que la musique est forte, je vais pas dire, bon ben, vous pouvez laisser, ça me fait mal aux oreilles. Je sais que je mets mes bouchons et puis.
Le bouchon, c'est. Et puis, voilà. C'est un ami, mais. C'est à double tranchant, quoi. C'est le gros problème. En fait, on a envie de se protéger parce que. Voilà, ça nous fait mal et puis on n'a pas envie d'avoir mal. Et puis on n'a pas envie que ça empire. Donc ça, c'est les 2 points. Et en même temps, on sait qu'il faut pas se protéger trop, parce que sinon, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que l'oreille se désensibilise, et du coup, dès qu'on enlève les protections, on est encore plus sensible.
Comme maintenant, on est dans une société du bruit et on aurait tendance à se protéger. Mais à force de se protéger, que se passe-t-il ? On devient tolérant à tout bruit. Tout bruit.
Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. Ça, c'est pas évident à comprendre, hein, parce que les ORL n'expliquent pas forcément le truc, ou alors ils le disent, mais sans l'expliquer. Donc, du coup, on a besoin de comprendre, hein, vraiment, ça, c'est important. Donc, au bout d'un moment, on arrive, voilà, si les bonnes personnes l'expliquent bien, on comprend le truc. Mais effectivement, il faut faire attention parce que des fois, il faut quand même se protéger parce que sinon, ça empire aussi d'être confronté au son qui pose problème. Donc, il faut savoir à quel moment mettre le bouchon, en fait. Et ça, c'est pas évident parce que moi, je sais que j'ai du mal à le gérer, ce truc-là, parce que des situations où c'est limite, quoi. Voilà, il y a des enfants qui commencent à crier, etc., dans l'environnement. On se dit, bon, je les mets pas. En même temps, on veut pas les mettre parce qu'on se dit, faut que je m'y habitue, faut que j'arrive à gérer le truc. Mais on sait qu'on est limite et que dès qu'il y en a un qui va monter de 10 décibels en plus, ça va faire mal. Donc,
je n'ai vraiment pas supportable et me fait mal, je me bouche les oreilles en attendant que ça passe. J'évite de sortir dans la journée aux heures de pointe, quand les rues sont pleines de gens et de véhicules et de bruits. J'ai testé les bouchons d'oreilles, mais je n'aime pas non plus être coupée du mur.
Je vis comme un moine tibétain. Je fais mon maximum pour éviter tous les bruits douloureux.
Je vis comme un moine tibétain.
Je n'ai pratiquement plus de vie sociale. Je n'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie.
Je n'ai pratiquement plus de vie sociale.
Bonjour, j'aimerais savoir si certains d'entre vous souffrent d'hyperacousie. Et si c'est le cas, comment ils la gèrent ?
Je ne supporte plus les bruits de fourchette.
Je ne supporte plus les bruits de fourchette.
Je m'isole, je fuis ce bruit. Un cauchemar.
Je m'isole.
J'ai perdu
je
confiance.
Je fuis ce bruit.
Tu m'as rendu à
un cauchemar.
J'oscille avec des phases où je reste chez moi déprimée, puis on me propose de sortir et je craque.
Je n'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie.
Puis je retombe à nouveau. Étant actuellement dans le même état que toi depuis des semaines, je ne peux que comprendre et compatir.
Courage.
Vous écoutez souvent la radio ?
Oui, j'écoute la radio pour ne pas entendre les sons. Parce que j'entends des sons, c'est comme une boîte à résonance, quoi. Voilà, je vais juste préparer le café. Maintenant, je tolère tous les bruits naturels pratiquement, sauf les grands rassemblements, les concerts et tout ça. Finalement, l'oreille s'adapte. Mais par contre, les basses fréquences, tout ce qui est éolienne autour, c'est insupportable, impossible. Moi, j'entends des sons que peut-être les autres n'entendent pas et c'est un dérèglement de l'oreille.
Je cherche mes propres astuces, par exemple. Les huiles essentielles, le soir, je m'endors avec des huiles essentielles, avec une musique douce. Aussi, par exemple, je me protège.
C'est-à-dire, je me mets ma tête au chaud, quoi. C'est-à-dire, surtout quand je sors, toujours, j'ai dû porter des bonnets. Je suis quelqu'un qui est fan de bonnets parce que je ne peux pas tomber malade, parce que ça détériore aussi les problèmes d'oreilles. Et j'ai l'impression, quand je mets mes oreilles au chaud, les osselets sont au chaud, ça aide, quoi. Et puis, éviter de l'alcool. Je bois presque pas d'alcool. J'ai jamais bu avant, beaucoup, mais j'évite l'alcool parce que l'alcool, j'ai l'impression que les acouphènes sont beaucoup plus forts. Je bois du café, mais juste dans la première moitié de la journée. Donc, j'essaye d'avoir un rythme de sommeil régulier malgré tout. Le sommeil, c'est quelque chose de très important, même si la qualité de sommeil n'est pas la même qu'avant. J'essaye d'avoir des horaires régulières et parfois, il faut céder, malheureusement, par des médicaments.
Voir moins de concerts, je vais voir des choses un peu plus calmes aussi. Des fois je demande, je dis est-ce que tu sais s'il va y avoir un son fort. Enfin voilà, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fabriqué une armée de trucs pour survivre dans la jungle urbaine. Il y a un petit peu côté comme ça quoi, mais. J'ai acquis une vigilance, je pense, de. Voilà. Je sais que par exemple quand le métro de la ligne 2 arrive, bah je me bouche les oreilles, quoi qu'il arrive, parce que je sais que ça va être désagréable. Des fois ça va aller, puis en fait des fois non, donc j'ai plus envie de me prendre la tête, donc il arrive, je me bouche les oreilles, ça dure 15 secondes, et puis c'est pas grave. Voilà, quand je suis fatiguée, si je dois passer l'aspirateur, je mets mon casque anti-bruit, c'est des sons que j'aime pas. Et après, je sais pas, quand je fais les balances pour un concert, je préviens toujours l'ingé son, je lui dis je... Bon ça c'est chiant aussi, parce qu'il y en a, ils... Bon, tu fais ta chanteuse, t'es trop chiante et tout, mais... Bon, c'est pas grave, enfin, voilà, j'en prends mon parti et tout. Donc je lui dis, est-ce que tu peux monter super doucement les trucs et tout. Enfin, voilà, je préviens, je suis hyper sensible au Larsen, j'ai eu des problèmes d'oreilles. En fait, voilà, j'essaie d'anticiper tout le plus qui peut m'être désagréable. Et puis après, pour le reste, ça va. Hein. Si je veux aller voir un concert, je trouve que c'est un peu fort, je mets mes bouchons comme n'importe qui. Le gros du truc, c'est d'arriver à décoder quand est-ce que les sons sont vraiment trop forts et quand est-ce que c'est nous. Mais ça prend du temps. Hein. Par exemple, si on arrive à discuter normalement sous hausser la parole et que je trouve quand même que c'est trop fort, je sais que ça va. Si je suis obligée d'hausser la parole et de machin, tout de suite je me dis bon bah là c'est un peu fort, donc soit je prends mes bouchons, soit si je suis fatiguée je rentre, enfin voilà, mais déjà le niveau de parole, ouais. Enfin, par rapport à moi, en fait, je suis à peu près... Bon, après, je parle pas très fort de manière générale, mais après, je sais, par exemple, j'arrive à analyser quand je pousse ma voix, ça me donne un petit baromètre. Et puis après, il y a des sons, enfin voilà, par exemple, le son de l'échelle qui claque, des trucs comme ça, je sais que c'est pas grave, en fait. Moi, je déteste, enfin, ça me stresse toujours, ça me fait mal et tout, mais je sais que je risque rien, enfin, c'est un son qui va durer un quart de seconde, qui est pas hyper fort en soi, je sais que moi, je l'aime pas, il me fait mal, mais je sais qu'il est pas dangereux.
J'essaie de faire en sorte justement que les situations ne dégénèrent pas en termes de volume sonore, même si c'est pas forcément facile. Au boulot d'ailleurs, dès qu'il y en a un qui commence à me couper la parole, à parler plus fort, etc., moi ça je peux pas parce que du coup ça commence à me faire mal. Donc il y en a certains qui commencent à comprendre qu'effectivement on parle chacun notre tour et voilà, on travaille calmement, il n'y a pas besoin de monter en volume, de couper la parole à l'un, à l'autre, de parler plus fort, etc. Ça sert à rien en plus. Même quand on n'est pas hyper acousique, faut quand même respecter les autres. Chacun parle et s'écoute. Et puis surtout, moi ça me posait un problème. Donc voilà. Donc j'essaie d'éviter justement qu'il y ait des situations comme ça. Puis quand il y en a, parce que voilà, des fois on n'a pas le choix, il y en a un qui commence à parler plus fort, l'autre à couper, du coup moi je reste en dehors de ça. Parce que moi-même je peux pas monter le volume et parler au-dessus de ces gens-là. Donc je reste en dehors de ça, j'attends que ça se calme, et puis si ça se calme pas, tant pis, ça sera sans moi.
Ça, par exemple, dans genre anticipation, quand je vais voir un spectacle, quand je sais que les applaudissements vont arriver, bah, je mets mes bouchons. Non, mais c'est ridicule. Mais... Parce que sinon, en fait, il y a des fois, je n'avais pas anticipé, ou je sais pas où est ma boîte de bouchons et tout ça, et du coup, je suis comme ça. Je me dis, putain, j'ai l'air trop con, je suis là, je me bouche les oreilles. Alors qu'en fait, j'ai envie d'applaudir comme tout le monde, mais ça me fait trop mal aux oreilles, les applaudissements, ouais. Bon, bah là, je supporte. Par exemple, typiquement, je me dis, ça va pas me faire perdre l'audition, ça met pas mes oreilles en danger, les gens sont contents. Enfin, c'est une construction mentale, quoi, c'est un effort mental. Je me dis, bon, bah. Tout va bien.
Ça te va le niveau, là ?
Ouais, ça me va.
Ok, cool. Okay.
Voilà, et puis l'autre fois, j'ai un copain à moi qui m'a sonorisé. Et c'est vrai, quand on a réglé le niveau de retour, j'ai dit, tu sais, je te préviens, je ne demande pas beaucoup de retour et tout ça. Mais il a vraiment halluciné. Hein. Il m'a dit, ah ouais, quand même, j'ai vu des trucs pas forts, mais là... Mais bon, mais voilà, après, maintenant, ouais, c'est comme ça. Et puis...
dans la pédale, en fait, j'ai la guitare qui rentre.
Alors vas-y, fais-moi un peu de guitare.
En fait, peut-être que ça va être bizarre, c'est que le bruit des élèves m'a déclenché ça, mais si j'avais pas eu les élèves, je pense que j'aurais pas continué, parce que là, j'étais obligée en me disant, si je laisse tomber, ils vont pas avoir de prof d'espagnol, ils auront plus de cours, je vais me sentir responsable. Donc, quelque part, ça m'obligeait à aller travailler, mais peut-être parce que j'étais pas arrivée au dernier degré qui fait, je sais qu'au dernier degré, les gens ne peuvent plus. Quoi. Donc, mais je m'accrochais à ça.
Moi aussi, j'ai la tendance de mettre le problème d'hyperacousie au centre de la vie, puisque ça se met au centre. Sans vouloir, on est là-dedans dans le problème et toute notre énergie part là-dedans pour trouver des solutions. Ça a devenu un problème numéro un de ma vie, quoi. Mais essayer malgré tout de trouver d'autres choses qui nous permettent de décentrer notre attention. Je m'intéresse à beaucoup de choses. J'aime bien les gens. Donc, le fait, malgré tout, je vais vers les autres, quoi. J'aime la vie, je lis beaucoup, j'aime les livres, j'aime la peinture, j'aime bien le tricot. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que je décentre mon attention du problème pour penser à autre chose, quoi.
Après, les autres, c'est plutôt minimaliste, ça peut être des guitares-voix ou des synthés-voix. Et qu'est-ce que je veux dire ? En fait, il y a des sons un peu aigus sur les synthés qu'il faut un peu baisser, pas que ça soit agressif. Et pareil, sur certaines percus, j'ai pas des bandes top qualité. Mais je te passe un truc et... Ouais.
C'est aussi très conditionné à la fatigue et au stress. Alors c'est pas la fatigue et le stress qui font, qui déclenchent les symptômes évidemment, mais ça amplifie. C'est-à-dire qu'après une journée vraiment difficile, pour X raisons, la saturation, l'hyperacousie est plus forte. C'est très lié aussi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire un maximum, d'être le plus zen possible. Toutes les situations, je m'énerve plus. Enfin, j'essaie de plus m'énerver au boulot, à la maison, nulle part. Parce que de toute façon, dès que je m'énerve, l'hyperacousie est beaucoup plus forte. Donc voilà, il faut plus s'énerver. Donc c'est peut-être le côté positif, je vais peut-être devenir plus zen qu'avant, quoi. Je sais pas, on verra. Par la force des choses.
On peut quand même faire ce qu'on veut et il faut juste l'organiser, quoi. L'organiser, le maître mot. J'ai vachement abandonné l'idée de la solution miracle. Parce que j'ai un peu cherché pendant des années en me disant, un jour je vais trouver le truc et tout va être réglé, quoi. Bon, bah ça, clairement, non. J'ai toujours les oreilles sensibles, les oreilles toujours, je les ai toujours eues. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis, en plus, j'ai fait plein de trucs, l'ostéo, les massages énergétiques, les machins, enfin, tous les trucs où j'attendais une espèce de solution, tout ça. Bon, il n'y a rien qui a marché, en fait. Il y a juste vraiment le travail personnel, le travail en continu, avec... Enfin, voilà, qui a marché, en fait. Et donc, tant mieux, parce qu'en même temps, du coup, c'est plutôt solide pour la suite. Enfin, voilà, maintenant, je sais comment vivre avec tout ça.
Je suis un peu moins chiant à la maison. Je râle un peu moins après ma copine, la pauvre, qui fait trop de bruit quand elle fait à manger ou quand elle débarrasse de la vaisselle. Mais effectivement, il y a eu des périodes où j'étais toujours en train de dire « Fais attention, moins fort, attends, t'es en train de vider de la vaisselle, attends, je m'en vais, je vais dans une autre pièce, etc. » Ou même quand je suis fatigué et que je suis pas sympa, quoi, à dire « Ah, fais moins de bruit, pense à moi, etc. » Donc ça, je le fais un peu moins. Donc du coup, c'est ça qui nous a fait prendre conscience aussi, tous les deux, qu'il y avait une évolution positive depuis quelques mois, même si c'est pas extraordinaire, mais voilà. J'ai récemment pu sortir les assiettes du lave-vaisselle tout seul. Donc ça, c'est un indicateur aussi. Parce que ça fait vraiment partie des bruits super relous qui me font mal. Voilà, les assiettes qui s'entrechoquent, les verres, etc. Et donc, je débarrasse plus de la vaisselle. C'est ma copine qui fait. Moi, en contrepartie, je fais à manger. Mais du coup, voilà, récemment, j'essaye un petit peu, je fais des tests, et puis j'arrivais un peu plus à gérer ce bruit-là. Bon, évidemment, c'est toujours difficile, mais c'est moins pire qu'avant.
Globalement, j'arrive à vivre avec et du coup, maintenant je suis musicienne, donc c'est vrai que je suis contente de ce petit parcours. Ouais. Des fois, quand même, je me dis, ah tiens, on sait jamais. Peut-être un jour, je pourrais faire du rock dans ma vie avec une batterie. Mais bon, si je le fais pas, c'est pas grave.
Le son qui détruit. Une création de Benoît Bory et Charlotte Rouault. Réalisation Marie-Laure Ciboulet. Composition Benoît Bory. Prise de son Benjamin Thuot. Mixage Pierrick Charles. Musique, Gisèle Pape. Merci au docteur Auré Serre et aux personnes qui ont accepté de témoigner. Création On Air, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko.
Ouais, c'était la voix, mais c'est bon, c'est coupé. Enfin, c'est
et je peux en plus de retour voix ou pas?
Ouais, carrément. Non, non.
surgit l'envie d'un autre soir. Combien encore?
Demain, à 23h sur France Culture, Manu Farine pour Poésie et ainsi de suite. Rendez-vous avec le conteur Sébastien Barrier et le poète Jean-Michel Espitalier. La semaine prochaine, rencontre avec Robert Wyatt par Gilles Pézra, Pierre Bornard, Anne Pérez. Jeudi, départ pour Ouessant, l'inspiration du souffle par Jean-François Sprissigo et Nathalie Salles.